téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux
infos.
Les sociaux, on est très fiers. C'est intéressant.
Il est 9h41, soyez les bienvenus dans l'instant M, la seule émission qui a à la fois l'œil qui frise et l'oreille en coin. L'instant M aujourd'hui avec un M comme Mamma Mia. Mais quelle mafia chez les Corses. Après avoir enquêté sur la vie de François Mitterrand, sur le génocide au Rwanda, mais aussi sur le sabotage du vol UTA 772 ou encore sur la face cachée du journal Le Monde, le journaliste Pierre Péan s'est intéressé à la mafia Corse. Il signe un documentaire, une somme passionnante qui passe ce soir à 20h50 sur Arte et il est notre invité ce matin. Bonjour à vous, Pierre Péan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir choisi l'instant M pour nous raconter ce que vous avez découvert. On en parle dans un instant, mais d'abord, avez-vous vu, chers auditeurs, François Fillon hier à la télévision? Non ? Ah ! C'est dommage, parce que figurez-vous qu'il a tiré à boulet rouge contre la presse et les médias.
Ce n'est pas le tribunal médiatique qui me jugera.
Il a dit. Tribunal médiatique, il a dit, paraît qu'on l'aurait canardé.
Après 10 jours de lynchage médiatique.
Lynché, comme jamais ça ne s'est produit depuis le général de Gaulle.
À ma connaissance, du jamais vu sous la Ve République.
Les chiens, les loups ou les canards, je ne sais plus, je m'y perds dans tout ce bestiaire, se seraient déchaînés dans un but bassement politique.
Le but de cette opération, c'est d'effacer le choix des électeurs de la primaire.
Quand la télé, elle, aurait monté, tronqué, caricaturé perfidement les propos d'Albion et de Pénélope Fillon.
On a sciemment pris des morceaux de phrases, retirés de leur contexte.
Pas content, l'aspirant président a menacé à mots à peine voilés des journalistes qu'il a choisi d'opposer aux Français.
Lynché, assassiné politiquement, comme finalement vous l'avez fait, pendant 10 jours, un candidat à l'élection présidentielle, je pense que ça pose un problème. Que ça pose même un problème démocratique. Et ma conviction, c'est que les Français sont tout doucement en train de s'en rendre compte.
Ici, ça nous a fait un peu froid dans le dos, nous qui pensions naïvement qu'on ne pouvait entendre ça qu'au pays de Donald.
L'instant M, Bruno Donnet.
Pierre Péan, un mot de commentaire sur la charge d'un candidat à l'élection présidentielle contre la presse. Comment le journaliste, le spécialiste de l'investigation que vous êtes, réagit-il ?
Je suis assez mal à l'aise pour répondre.
Pourquoi donc ?
Parce que je suis de Sablé-sur-Sarthe et je connais François Fillon depuis 39 ans. Et donc, je préfère demander un joker pour, par rapport à cette question.
Accordé exceptionnellement. Alors ce soir, Arte diffuse donc l'enquête que vous avez réalisée avec Christophe Bouquet, Christophe Nick et Vanessa Ratigné. Un documentaire de 3 heures qui commence comme ça.
La mafia corse étend sa toile sur tous les continents depuis un siècle. Elle n'a pu exister et se développer qu'avec la complicité d'une partie de l'État français.
Pierre Péan, ma question première sera très simple. Comment avez-vous découvert l'importance colossale de la mafia corse ?
Je m'intéresse à la mafia corse depuis une bonne vingtaine d'années par le biais des corsos africains. C'est-à-dire que j'ai vu en 1993 comment ils ont participé au trucage des élections au Gabon. Et donc, à partir de ce moment-là, je les ai suivis. Et donc, j'ai suivi au fil du temps leur importance avec 2 personnages principaux qui étaient Charles Félix Yadji et Michel Tommy, dont on parle encore beaucoup maintenant. Et donc, c'est en travaillant sur eux que j'ai commencé à mener une enquête et je suis remonté dans le temps et pour essayer de comprendre un petit peu le mot mafia, il est venu tout simplement, j'ai pu l'utiliser à partir du moment où, fin 2012, Jean-Marc Ayrault et Premier ministre et Manuel Valls ont utilisé pour la première fois ce mot.
Ça n'était jamais arrivé avant ?
Non, il y avait seulement eu, avec Lavagny en 1998, il y avait le système pré-mafieux et la dérive mafieuse, mais le mot mafia tel quel n'avait jamais été employé.
Pierre Péan, dans votre film, on apprend que la mafia s'est installée en Corse au tout début des années 30. Alors, personnellement, j'étais persuadé que les affaires de mafia corse étaient nées bien plus tard, au moment de la guerre froide. Comment vous êtes-vous aperçu que ça avait démarré aussitôt ?
C'est pas ça. C'est pas. Dans les années 30, on peut pas parler de d'une installation en Corse. On peut parler de l'installation des Corses, surtout installée à Marseille. Et donc, on s'est aperçu. En fait, sur cette période-là, c'est pas une enquête où on voit les gens. C'est essayer de voir dans les monceaux d'archives, dans les. C'est de voir surtout ce qui est intéressant, c'est de voir que deux personnages, Carbone et Spirito, eh bien, comme tous les gens du crime organisé, ont cherché une protection, et cette protection a été Sabiani. Et Sabiani, qui est devenu, grâce à eux notamment, maire de Marseille, et donc avec des échanges extraordinaires où chacun trouvait son avantage.
Alors, vous parliez à l'instant d'archives. Pour illustrer la toute première partie de votre film, vous êtes heurté à une difficulté, c'est que des archives comme celle-ci...
Paul Carbone, dit Ventour, est le gangster le plus célèbre de Marseille. Il a été mêlé à pas mal d'histoires louches, mais jusqu'à présent, il n'a jamais été pris.
Voilà, c'est très savoureux, mais il en existe très peu. Pourquoi n'avez-vous pas fait un film de fiction, mais bien un documentaire? Est-ce que vous avez eu cette tentation à un moment?
Ah ben là, plus qu'une tentation. Donc, quand j'ai commencé, moi, ma propre enquête sur la mafia corse, j'en parle comme d'habitude à mon ami Christophe Nick, qui est réalisateur et que je connais depuis 27 ans. Et quand je lui raconte, notamment l'histoire d'Étienne Léandri, tout de suite, il pense à une fiction.
Il vous dit il n'y aura pas de matos pour faire un documentaire.
Non, il pense à la fiction. Il pense que la seule façon d'exprimer toute notre conversation, c'était de passer sur un film. Et donc, pendant assez longtemps, il y a eu plein de discussions. Il y a eu contact avec des metteurs en scène. Ça a été auprès d'une station. Enfin, ça a été assez loin.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous a décidé finalement à en faire un documentaire et pas un film?
Déjà que la fiction n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que
faute de sous.
Non, je ne sais pas en réalité qu'est-ce qui a fait que la station n'a pas voulu. Et donc après, on s'est reporté sur une enquête pure et simple, un documentaire.
Alors Pierre Péan, dans votre documentaire, vous avez interrogé de nombreuses personnalités, et notamment le juge antiterroriste Gilbert Thiel. On va l'écouter à un moment. Il donne une sorte de définition de la mafia.
Très bonne définition, oui.
Il vous dit ça.
C'est quoi une mafia? C'est une organisation criminelle qui est hiérarchisée, qui est structurée. La mafia est une institution qui pénètre la société civile, qui crée des zones grises autour d'elle, qui prend le contrôle du tissu économique et peu ou prou du tissu social, et qui fait régner sa loi.
Pierre Péan, jusqu'où la mafia a-t-elle pénétré la République française ?
Alors ça dépend des époques. Là, on a commencé donc avant, dans les années 30, et donc on peut pas parler de la République. C'est seulement un maire et puis le préfet de Paris, préfet Chiappe. Mais on raconte après ce qui s'est passé pendant la guerre. Et donc là, c'est pas avec la République, c'est tout simplement qu'un certain nombre de personnages ont purement et simplement été dans l'appareil allemand. Et donc on fait autrement dit, les mafieux cherchent toujours des protections.
On découvre notamment dans votre documentaire que les nazis ont eu besoin de la mafia pendant l'occupation.
En tout cas, ils se sont servis effectivement des
malfrats.
Des malfrats.
Quel était leur rôle?
C'était tout. C'était d'abord peut-être aussi de prendre de l'argent pour eux. C'est-à-dire les voleurs, les trafiquants, etc. Pouvaient faire leur trafic en faisant des ristournes. Mais ils ont été beaucoup plus loin. Il y a aussi eu de la traque de juifs. Il y a eu de la traque. Il y a eu de la dénonciation. Il y a eu voilà.
Alors, il y a une figure qui traverse la troisième et dernière partie de votre enquête, c'est celle de Charles Pasqua. Tout au long du film, on se demande s'il aurait eu le même parcours politique sans ses relations corses. Et, à un moment donné, la voix off explique ça.
En mai 1988, Charles Pasqua perd son sourire. Son ami Jacques Chirac est battu à l'élection présidentielle face à François Mitterrand, qui est réélu. Il décide de servir sa propre cause. Simple sénateur, il utilise la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine pour asseoir ses ambitions. Il étend ses réseaux et affirme son emprise au Gabon et au Congo. La France-Afrique se transforme peu à peu en Corse-Afrique.
Pierre Péan, est-ce que vous dites que Charles Pasqua a trompé dans les affaires de Mafia Corse?
C'est très compliqué de parler de Charles Pasqua. Enfin, d'abord, ça a été plus simple le fait qu'il soit mort. Mais je ne sais pas comment on aurait pu faire autrement notre documentaire. Mais il est compliqué.
Attendez, s'il n'était pas mort, vous auriez été empêché de travailler?
Non, on aurait été obligé de faire plus attention dans l'écriture, tout simplement. Hein. C'est un personnage compliqué parce que il prenait pas lui d'argent pour lui. Personne n'a prouvé quoi que ce soit, mais il était une sorte de parrain, une sorte de qui laissait autour de lui laissait des gens faire des choses pas possibles. Mais vous avez posé une question: est-ce qu'il aurait fait cette carrière sans les Corses? Et je pense que non.
À quoi les Corses lui ont-ils servi?
Eh bien, donc, il s'est servi énormément de sa corsitude, et on le voit dès la création du sac, hein, où il utilise notamment un personnage.
Le sac, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est.
Ben, le service d'action civique a été un service d'ordre, de protection de la Ve République, de la protection donc du général de Gaulle. Et un des personnages qu'il va utiliser et toute sa vie. Alors encore que je ne sais pas qui utilisait l'autre, c'est un personnage qui est central dans le documentaire, qui est Étienne Léandry. Étienne Léandry, il a à la fois été proche de Carbone Spirito, il a endossé l'uniforme allemand. Il a été proche des Sicilo-Africains, la Cosa Nostra. Et après, il aurait dû être condamné de façon énorme pour sa collaboration. Grâce aux Américains, il n'a pas été condamné. Et on le voit après aider Charles Pasqua au sac. Donc, et jusqu'à sa mort, on va voir Étienne Léandry dans l'ombre de Charles Pasqua.
Vous dites qu'on n'a jamais rien prouvé contre Charles Pasqua. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que vous avez manqué de témoignages, d'informations, que ces informations n'existent pas?
Ce qu'on sait, c'est il y a des choses qu'on peut dire des choses et ça va assez loin, notamment l'utilisation des Corses en Afrique notamment. Et donc il a été condamné pour ça, Charles Pasqua, donc là-dessus il n'y avait pas de problème. Donc il a utilisé
dans quel pays d'Afrique ça se passait?
Ça se passait essentiellement au Gabon. Et donc il a poussé des Corses à s'installer davantage dans les jeux casinos PMU, et donc a été une grosse source d'argent. Il y a eu une ristourne pour quand il a tenté de se présenter à la présidence de la République. Ça, c'est clair.
Dans votre film, on apprend qu'il y a eu une quarantaine de millions de francs qui ont été alloués à des écoles au Gabon. C'était
oui,
ça,
la mafia? Ça, c'était la contrepartie. C'est-à-dire qu'on peut dire que entre 86, 88, mais surtout entre 93 et 95, en fait, Charles Pasqua était le vrai ministre de l'Afrique. Le ministre de la coopération n'avait pas son mot à dire. Et donc, dans cet univers-là, il agissait, il s'est beaucoup servi des Corses, et il s'est beaucoup servi des Corses, notamment au Gabon.
Alors, Pierre Péan, vous citez des dates qui sont extrêmement récentes, ça m'a beaucoup étonné. Comment est-ce que vous expliquez que, jusqu'à des temps très récents, personne n'ait réussi à faire cesser cette mafia? En 1969, c'est Georges Pompidou qui a essayé, on se souvient de l'affaire Markovitch. Vous nous dites un peu ce qui s'était passé à ce moment-là et quelles étaient les implications des Corses là-dedans?
Eh bien, c'est-à-dire que c'est très compliqué aussi à dire, pour ne pas avoir de procès, puisque j'en ai déjà eu sur ce sujet.
Vous êtes collectionneur?
Oui, je suis collectionneur, oui. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a eu, des officiers proches du sac, proches qui ont essayé de mettre des coups tordus contre Pompidou, notamment photos truquées, pornographiques.
Le coup tordu, j'explique, une des ramifications de l'affaire Markovitch, c'était il a circulé de fausses photos, des photos truquées de l'épouse du président Pompidou qui aurait participé à des partouzes et à des ballets roses.
Exactement, oui.
Mais alors comment se fait-il que Pompidou, même en dépit de tout ça et de l'affaire Markovitch, n'ait pas réussi à faire cesser la mafia corse? C'est un manque de volonté?
Alors,
c'est
trop fort pour lui. Ça dépend des époques. Hein. Quand on parle de la mafia corse, faut voir des époques. On a parlé tout à l'heure des corso africains, mais là, quand on se reporte au fin des années 60, début 90, on est dans un autre système, qui est un système énorme, qui était ce qu'on appelle la French Connection. Ouais. Et on peut dire que Marseille était la capitale mondiale de l'héroïne, puisque...
Parce que les Corses faisaient des affaires à Marseille, sur le continent, pas dans leur île.
Ça, c'est très très important. Effectivement, il y avait la mafia corse sanctuarisait son île.
Pourquoi?
Il y a sûrement un certain nombre de raisons. La première, c'est que physiquement, la capitale était Marseille, qui n'est pas en Corse, et surtout de protéger la famille, de protéger les vieux bandits venaient seulement à la fin, quand ils étaient encore vivants, venaient auprès de leur famille, leur clan, etc.
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Vous parliez de la French Connection, du trafic de drogue.
C'est essentiel, ça. La French Connection, ça n'a jamais été aussi puissant. Et donc l'analyse de la French Connection est extraordinaire. C'est-à-dire c'est au fond les Américains qui l'ont créé. Ils se sont, la CIA s'est servie des Corses contre la menace rouge. Hein. Et pour que le port de Marseille soit libre de docker CGT, etc. Et donc c'est grâce à ça que les Corses ont pu développer et faire en sorte que 90% de l'héroïne américaine venait de Marseille et des systèmes corses.
Vous êtes en train de me dire que la mafia corse est allée travailler jusqu'aux États-Unis.
C'était même le grand marché était le grand marché américain, donc c'était la grande prospérité et jusque dans le début des années 70, et a fallu une intervention très très forte, très puissante de Nixon pour que Pompidou et le système commencent à arrêter cette...
Voilà, alors c'est un film passionnant, on pourra en parler pendant des heures. Malheureusement, j'ai la pendule aux fesses. Mafia et République, c'est le titre de votre documentaire. Il est diffusé ce soir à 20h50 sur Arte. Merci beaucoup Pierre Péan d'être passé par le studio de l'Instant M. Et bonjour à vous Ali Rebéi, au sommaire de Grand Bien Vous Fasse ce matin, du sexe.
Bonjour Bruno Donner, comme ça vous avez la pendule aux fesses.
Absolument.
Écoutez, c'est bon à savoir. Ce matin, le sexe est-il si important que cela dans nos vies? Visiblement oui pour vous Bruno Donner.
Absolument.
Et question, on va se demander si on peut vraiment être heureux sans vie sexuelle. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 sur notre page Facebook et par courriel. Grand bien vous fasse @radiofrance.com.
Ce sera juste après les infos.